vous allez écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.
Bonjour à tous, bienvenue dans l'émission Sur ma route. Ce mois-ci, le sujet sera les dangers dans deux roues motorisées. Et pour faire cette émission, je reçois monsieur Christian Milor de l'Association pour la formation des motards Provence-Alpes-Côte d'Azur. Bonjour monsieur Milor.
Bonjour.
Alors avant de commencer à parler des dangers en deux roues motorisées, présentez-vous et dites-nous un petit peu ce que fait l'association AFDM.
Oui, bonjour, je suis le coordonnateur de l'AFDM PACA, donc Association de formation des motards Provence-Alpes-Côte d'Azur. Nous faisons des stages de perfectionnement post-permis. Nous sommes fédérés au sein de l'AFDM nationale, qui regroupe une dizaine d'AFDM associatives, donc pour toute la France, ainsi qu'un réseau de moto-écoles reconnues, donc des moto-écoles qui vont appliquer dès la formation initiale les principes de base de la pédagogie et AFDM. Pour nous, nous faisons sur la région PACA plusieurs types de stages. Le stage de référence, c'est le stage de perfectionnement. Ce stage se déroule sur deux jours, un samedi et un dimanche. Il s'adresse à tous les motards, tout type de motards, tout âge, tout permis à partir de 1 à 1, ainsi que toute machine à partir de 125 cm3. Le stage se déroule donc sur deux jours. Il a la particularité, et nous sommes quasiment les seuls en France à faire ça, le stagiaire va avoir avec lui un animateur dédié, donc il va être binommé dès le samedi matin, avec une personne qui va rester à lui tout le long du week-end. Donc pendant les deux jours. Cet animateur, c'est quelqu'un qui a fait le stage de perfectionnement et également qui a suivi une formation interne qui est délivrée par nous-mêmes sur un spot que l'on définit a priori en début d'année. Notre champ d'action, donc, c'est sur Château-Renard, Marseille, Nice et Barcelonnette. Barcelonnette, c'est un site un petit peu particulier puisque là, après le stage de perfectionnement, on peut faire d'autres stages et donc là, ce sera le stage montagne qui se fait à Barcelonnette. Nous avons également un stage duo qui se fait en Vaucluse. La particularité également, c'est que nous avons un professionnel de la conduite, un professionnel de l'enseignement de la conduite qui va superviser le stage tout au long du stage. Donc voilà, c'est lui qui va, encadrer les animateurs tout le long du stage. Voilà. Et puis, il y a moi, je m'occupe du sopalin, si vous voulez. Donc, il faut bien quelqu'un qui s'occupe un petit peu de tout ça. Donc, ce stage de perfectionnement, est reconnu au niveau européen puisque nous venons d'avoir le renouvellement de notre label européen qui est délivré par un organisme allemand. Donc, nous sommes la seule association, seul organisme en France à avoir ce label. Donc, c'est une reconnaissance et un gage de qualité, donc, pour nos stagiaires. Il y a également d'autres bonifications, c'est-à-dire que la mutuelle des motards va accorder une réduction sur la prime d'assurance à quelqu'un qui a fait le stage de perfectionnement. Et nous avons aussi des antennes FFMC qui peuvent participer au financement d'une partie du stage grâce aux subventions qu'ils vont aller chercher au niveau des préfectures sur ce qu'on appelle les PDASR, les plans départementaux d'action de sécurité routière. Notre leitmotiv, si je peux dire, donc notre phrase culte, c'est plus de plaisir et moins de risques. Et il y a une deuxième chose, c'est que nous allons travailler sur la maniabilité et la fluidité, donc sur la route, puisque le stage est uniquement route, hein, on ne fait pas de piste ni de tout chemin.
Très bien. Alors nous allons couper cette émission en trois parties. On va commencer par les dangers en deux roues motorisées, puis après on parlera des causes de ces accidents et enfin des équipements de protection et entretien. Alors pour commencer, quels sont les dangers en deux roues motorisées ?
Alors une première définition, parce que je me suis dit la notion de danger et de risque est en général mélangée. La notion de danger, un danger, c'est une source potentielle de dommages et de préjudice donc qui va à l'égard d'une chose ou d'une personne. En moto, mais même en déplacement routier, il y a deux types de dangers. Il y a un danger qui va être lié à externe, qui va être lié à l'environnement. Donc, prenons quelques exemples. Vous avez la météo, vous avez la pollution, vous avez l'infrastructure routière, vous avez la densité de circulation et les autres usagers. Donc, on va croiser sur la route des piétons jusqu'à des poids lourds, ainsi de suite. Et il y a également un certain nombre de choses qui nous ont été rajoutées par la modernité, donc ce que l'on appelle les distracteurs, les GPS, les téléphones, et ainsi de suite. Le deuxième danger, c'est un danger interne, c'est-à-dire c'est le comportement du conducteur. Et donc le comportement du conducteur va subir des altérations du comportement, donc du stress, de l'euphorie, de la dépression, un état physique mauvais par exemple, et il va, par exemple un déficit visuel, et également il va être soumis à des addictions, l'alcool, la drogue, ainsi de suite, qui vont avoir donc un effet sur le fonctionnement du cerveau et sur le fonctionnement du comportement sur la route. Voilà, donc ça c'est je dirais les dangers, c'est d'une part externe l'environnement, donc nous on apprend aux motards à prendre en compte l'espace dans lequel ils se déplacent, et également donc le danger interne c'est le comportement, et nous on travaille sur ce qu'on appelle le savoir-être, donc c'est-à-dire que la façon dont on va rouler va prendre en compte un certain nombre de choses. Donc sur le vis-à-vis des autres usagers, mais également vis-à-vis de son environnement.
D'accord. Alors, quelles sont les différentes catégories de deux roues motorisées ?
Alors, vous avez les deux roues motorisées donc sans permis, enfin avec un brevet de sécurité routière. Donc ça, ce sont les scooters et les cyclomoteurs de moins de 50 cm3. Et ensuite, vous avez les scooters et les motos à partir de 125 jusqu'à des cylindrées assez importantes.
Alors, on sait qu'il y a beaucoup d'accidents de deux roues, et est-ce qu'il y en a plus en secteur urbain ou en secteur rural ?
Alors, j'ai pris les statistiques parce que la préfecture de Vaucluse vient de publier son DGO, document général d'orientation, dans lequel la statistique sur le Vaucluse, c'est qu'on a une prépondérance hors agglomération, donc aux alentours de 60% de tués hors agglomération. Mais par contre, en période estivale, c'est en agglomération qu'il y a le plus de tués.
D'accord. Est-ce que vous avez quelques chiffres sur la mortalité des deux roues motorisées dans la région ?
Alors, en Vaucluse, sur la période 2017-2021, il y a eu 47 tués, avec une prépondérance pour la tranche d'âge de 48-64 ans. Et il y a ce qui représente 22% des tués, sur la totalité des tués dans le Vaucluse, mais qui ne représente que 8% de la population.
D'accord. Et est-ce qu'il y a des régions plus accidentogènes que d'autres ?
Alors, suivant les sources ONISR de 2021, les régions, je vous ai fait un petit classement, donc la région qui est en tête, c'est la région Occitanie. Elle est suivie par la Nouvelle-Aquitaine, Rhône-Alpes, l'Île-de-France et PACA arrive en cinquième position.
D'accord.
Donc, pour les deux roues motorisées, par contre, PACA arrive en tête. Donc sur cette notion d'occidentogène, avec dans les classements une prépondérance donc pour les départements 13-83, ensuite le 06 et ensuite le 84 et le 04.
Ok. Et dans un accident en deux roues motorisées, quelles sont les parties du corps qui sont le plus abîmées en général ?
Alors la première chose, ça va être fonction de l'équipement, mais la première chose qui va être abîmée, ça va être la peau. D'accord, c'est-à-dire que en cas de chute sur de l'asphalte, si vous voulez, la première chose qui va frotter et qui va partir, ça va être la peau, ce qui fait que on peut avoir des greffes de peau pendant très longtemps si on n'est pas bien protégé. Ensuite, ce sont les articulations, chevilles, genoux, poignets et doigts. Donc ce sont les premières choses qui vont arriver en contact avec le sol et qui vont, il va y avoir des, suivant la vitesse, donc des arrachements de ligaments ou des choses comme ça. Et enfin, en cas de choc, donc en cas de rencontre avec un obstacle, là on a les os, mais on a surtout les organes donc qui vont avoir des lésions très importantes.
Le nombre d'accidents par an, est-ce qu'il est au même niveau ? Est-ce qu'il stagne ? Est-ce qu'il augmente ?
Alors, il a diminué, ce qui est logique, pendant le Covid, puisqu'il y avait beaucoup moins de circulation. Et il est revenu aujourd'hui, d'après les publications, au niveau de 2019. Donc on peut considérer qu'il est stable. Si vous voulez, aujourd'hui, dans la décroissance des accidents, on est arrivé dans l'asymptote. Et donc, si vous voulez, la diminution asymptotique devient très faible et demande beaucoup de moyens.
On va passer maintenant aux raisons pour lesquelles les accidents de deux roues motorisées se produisent. Quels sont les principaux dangers ? La vitesse, l'inattention, l'alcool, la drogue ?
Alors, nous avons une approche différente. La première raison, si vous voulez, c'est un regard mal placé. C'est-à-dire que le motard va regarder où il faut pas, c'est-à-dire que soit il est pas attentif, soit il est concentré sur l'obstacle qui va arriver. Ensuite, le manque de visibilité, c'est-à-dire que le motard va se placer sur la route un peu comme une voiture. Sauf que dans une voiture, vous avez une impression de protection assez importante, sur une moto, non. Donc le manque de visibilité, si vous voulez, la phrase que l'on a, nous, c'est que quand on voit pas, on n'y va pas.
Oui.
D'accord ? Donc voilà. Et ensuite, il y a le manque de régulation de l'allure. Alors ça veut dire quoi ? Ça veut dire que c'est la maîtrise de sa vitesse en fonction de son environnement. Quand vous abordez une courbe, un virage, ainsi de suite, ou quand vous vous déplacez en ville, par exemple sur le hameau de Serres. Donc il faut maîtriser son allure. C'est ça qui va permettre d'anticiper beaucoup de choses. Ensuite, les raisons pour lesquelles les accidents motorisés se produisent, on a aujourd'hui les infrastructures. Les infrastructures se sont dégradées au fur et à mesure. Donc le maintien de ces infrastructures laisse à désirer aujourd'hui. Et ensuite, on a l'affectation de la vigilance, puisque les premières causes, une partie, 50% des causes des accidents mortels, c'est l'alcool et les drogues. Donc c'est pareil. Donc affectation de la vigilance, c'est les substances qu'on peut absorber, qui vont modifier le comportement, mais également les distracteurs. Donc vous avez aujourd'hui pas mal de distracteurs comme le téléphone, ça c'est la première chose. Mais on va avoir aussi des GPS, des aides à la conduite, des choses comme ça. Et puis, l'affectation de la vigilance va aussi être affectée par la fatigue et aussi les affects, c'est-à-dire si vous êtes stressé ou pas. Au niveau des vêtements, les vêtements, c'est qu'il faut avoir des vêtements adaptés à son parcours routier, hein. On va pas s'habiller de la même façon quand on est en ville que quand on va faire de la route, quand on va faire du tout-chemin et ainsi de suite. Il faut également prendre maintenant une précaution, c'est de regarder si le vêtement est homologué. Donc les casques ont un petit logo d'homologation, les gants aussi, mais les autres vêtements aussi ont une homologation, donc une norme donc que les constructeurs appliquent.
Alors, on vient de parler de la vitesse. Il paraît que le champ de vision diminue avec la vitesse. Dites-nous-en un petit peu plus.
Alors, le champ de vision ne diminue pas. D'accord ? C'est-à-dire que, si vous voulez, il n'y a aucune raison que les yeux, tout d'un coup, aient un champ de vision moindre, hein, puisque par conception, c'est le même. C'est l'image perçue qui devient floue. C'est-à-dire, avec la vitesse, vous êtes tous rendus compte que les bords deviennent flous, puisque avec la vitesse, vous êtes dans un train, par exemple, vous apercevez que vous ne voyez pas, toute la zone devient floue et vous n'avez une zone nette que devant vous. Donc, ce n'est pas le champ de vision qui se réduit, c'est l'image que vous en avez, c'est la perception de l'environnement qui devient flou. Et donc, si on tourne la tête, à partir de ce moment-là, le flou redevient net. D'accord ? C'est également une chose. Donc, on voit net dans l'axe du regard, quelle que soit la vitesse. Donc, c'est un peu ça. Et sur les bords, le champ de vision, si vous voulez, efficace sur un conducteur, si vous voulez, c'est un champ de vision qui fait 60 degrés, on commence à percevoir les panneaux. Et sur un champ de vision de 10 degrés ou 15 degrés, on commence à voir ce qu'il y a devant nous.
D'accord. Alors, qu'est-ce que l'hypovigilance ?
Alors, l'hypovigilance, c'est l'apparition de ce qu'on appelle des micro-sommeils. Donc c'est lié à la fatigue, mais pas que. Ça peut être lié aussi à la consommation de drogue ou de médicaments, par exemple. Donc le cerveau va avoir tendance à ralentir et à s'économiser, puisque l'attention de quelqu'un ne dépasse pas 20 minutes. Hein, les professeurs le savent bien dans leurs cours de classe. Donc s'il faut, c'est un phénomène qui peut aussi apparaître en fonction de la météo, et ce qu'on appelle un engourdissement, c'est-à-dire quand il fait froid, petit à petit, on va se concentrer à l'intérieur, si je puis dire, et on va être en hypovigilance au bout d'un moment.
Ok. Alors on va faire une petite pause musicale et on continuera après avec les causes des accidents en deux roues motorisées.
Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame. Tu m'as l'air sympa, dis-moi c'est quoi ton programme. Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame. Suis-moi pour la vie et je t'appellerai ma femme.
Oh 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 madre mia, sto pensando mi amore. Se mi querida, ya que el pour me pole. Ah si
mademoiselle ou madame. Tu m'as l'air sympa, dis-moi c'est quoi ton programme. Rakatakata, toi c'est mademoiselle ou madame. Suis-moi pour la vie et je t'appellerai ma femme. Elle sait que je suis in love et câlin toute la noche. Trop douce, un peu insolent, des bisous dans le coche. Je crois bien qu'on s'est trouvé, nous deux c'est quelque alors. Moi je fais que innover dans mes bras, mi amour.
Vous êtes dans l'émission Sur ma route et je suis avec monsieur Milord de l'AFDM, l'association pour la formation des motards région PACA, et nous parlons des dangers en deux roues motorisées. Alors quelles sont les principales causes de dangers en deux roues motorisées? Est-ce un mauvais entretien de son engin ou un mauvais comportement en général?
Alors je dirais dans un premier temps ni l'un ni l'autre. Parce qu'il y a une statistique importante à savoir, c'est que 70% des causes de danger viennent des accidents sont dus à un véhicule léger, donc et pas à une moto. Donc, ce qui veut dire que 30% des motards ont des accidents dus de leur fait. Donc, au niveau de l'entretien de la machine, si vous voulez, un motard, à part quelques exceptions qui doivent être millimétriques, maintient sa machine en condition de roulage, donc parce qu'il sait que ne serait-ce que les pneus, c'est ce qui le maintient en vie, si je puis dire. Et au niveau du comportement, eh bien, il peut avoir ce qu'on appelle un comportement inadapté, c'est-à-dire que il va rouler trop vite dans une zone où il faudrait ralentir. Il va considérer, par exemple, qu'une voiture est arrêtée à un stop, donc il a le droit de passer. Donc nous, on travaille sur le fait de dire que ben non, on n'a pas le droit, on va essayer de passer sans dommage. Donc voilà, donc c'est un peu sur les principales causes de danger. Donc je dirais que c'est principalement les autres et ensuite le comportement inadapté du motard.
Le premier danger, ça reste quand même les autres automobilistes, les autres usagers de la route, on va dire.
Oui, si vous voulez, on peut partir du piéton, si vous voulez, qui va traverser sans regarder, par exemple, ou qui est préoccupé, ou qui est en train de téléphoner. Ou le cycliste qui va être, par exemple, deux ou trois de front, ou qui va couper un virage. Hein, si vous faites la descente du Ventoux en moto, si vous voulez, nous, notre crainte, c'est de se retrouver avec un vélo dans notre trajectoire. Donc voilà, donc tout ça veut dire que, eh bien, il va falloir donc en tant que conducteur de deux roues, bah, maîtriser un petit peu son environnement et anticiper beaucoup de choses. Donc nous, on est beaucoup dans l'anticipation et on donne des outils d'anticipation justement dans nos stages. Et
justement, dans votre association, les stages que vous faites des stages de prévention?
Alors tout dépend de ce que vous appelez stage de prévention. Si vous voulez, nous, c'est pas un stage de sensibilisation. C'est un stage dans lequel on a intégré la prévention, c'est-à-dire à la fois dans la vérification de sa machine. Hein, donc nous, on a un contrôle technique, entre guillemets, qui est le contrôle du matin. Qu'est-ce qu'il faut que je regarde en priorité sur ma moto et qu'est-ce qui est visible? Bah, la première chose que l'on voit, c'est les pneus. Donc on voit leur usure, voilà, on voit donc éventuellement on fait un coup de vérification de pression, voilà, puis après on peut démarrer, vérifier tout le reste, ça se fait à façon. Ensuite les réglages, Donc, comment régler sa moto, hein ? Autant dans une voiture, vous allez régler le siège, et ben, sur une moto, c'est pareil. Si vous voulez, on sait, nous, qu'il y a très peu de motards qui savent régler leur commande, la position de leur guidon, puisqu'ils achètent une moto sans jamais regarder ce chose-là. Et c'est important pour la maniabilité et puis pour le confort. Ensuite, on travaille en prévention sur les postures, c'est-à-dire que nous, on a ce qu'on appelle la posture AFDM, c'est-à-dire la posture en V. Donc, dans lequel, si vous voulez, on va amener une posture qui va permettre de limiter, ou de prévenir un évitement, prévenir un danger, grâce au fait que, on ne va faire bouger ou faire balancer que la moto et pas le corps. Voilà, c'est ce qu'on appelle chez nous la viande reste stable et la ferraille bouge. Voilà, donc c'est un peu ça.
D'accord.
Voilà. Après, on travaille également sur les limites humaines, hein, notamment la vision. Le temps de réaction. On explique qu'il faut être plus vigilant en ville que sur route. Et puis sur les limites mécaniques de la machine. Donc jusqu'où on peut aller. Donc c'est tout cela fait partie de ce qu'on appelle nous le savoir-être. C'est-à-dire mon comportement sur la route, il est fonction du comportement que j'adopte déjà vis-à-vis de ma machine, mais aussi de moi et de mon environnement.
Alors parmi les accidents, il y a les angles morts. Rappelez un petit peu à nos auditeurs ce que sont les angles morts et ce qu'il y en a sur tous les véhicules.
Alors un angle mort est la région qui n'est pas visible dans un rétroviseur, pour faire simple. Hein. Donc tous les véhicules ont des angles morts, et notamment une moto. Donc aujourd'hui, il y a une campagne sur les angles morts. Les camions ont des affichettes maintenant, donc qui préviennent les automobilistes, enfin les autres conducteurs, qu'il y a des angles morts et qu'il ne faut pas rester dans un angle mort. Donc ça aussi, on apprend à savoir où se trouve l'angle mort. Et donc, en moto, par exemple, limiter un angle mort, c'est tourner la tête, par exemple, si vous voulez, d'accord ? Voilà, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder en permanence devant et dans ses rétros, à un moment donné, on va filer un coup de casque vers l'arrière ou sur le côté pour voir s'il n'y a pas quelque chose qui, justement, est dans notre angle mort, mais que l'on ne voit pas.
Au niveau de la visibilité, la voiture, le bus ou le camion ne voit pas toujours le motard arriver. Quel conseil nous donnez-vous pour être mieux vu en tant que motard ?
Eh bien, alors, il y a plusieurs rencontres avec un autre automobiliste. Donc, le croisement sur la route, par exemple. Donc, là, il faut vérifier que son phare est bien allumé, qu'on est déjà visible de base. Et ensuite, donc, regarder sa position sur la route, c'est-à-dire essayer de se faire voir au maximum. Donc ça, c'est la partie visible quand on croise. Si on suit quelqu'un, c'est pareil. On va essayer de positionner la moto pour que la personne vous voie dans son rétroviseur externe, par exemple, ou son rétroviseur interne. Et ça, c'est assez important parce que c'est là où vous allez voir, en regardant le rétroviseur de la voiture qui vous précède, que fait le conducteur. Déjà, est-ce que son rétro est bien réglé ? Parce que de temps en temps, on ne voit pas le conducteur. Donc on se dit, si on ne le voit pas, nous, lui, ne nous voit pas. D'accord ? Et ensuite, si on s'aperçoit qu'il a un téléphone à l'oreille, c'est encore pire. On sait que... Donc il faut être vigilant par rapport à ça. En croisement, en intersection, là, on va rechercher le visage du conducteur. Donc il faut savoir que l'œil humain permet d'identifier un visage au-delà de 200 mètres, d'accord ? Alors, on ne sait pas qui c'est, mais on perçoit le visage. Donc ça permet de savoir si déjà la personne vous regarde, c'est-à-dire soit elle agite la tête de droite à gauche, soit elle vous regarde et donc vous dites... Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc à partir de ce moment-là, on va rendre des gaz, on va diminuer sa vitesse, on va se déporter au maximum pour éviter que la personne fasse une intrusion sur la voie dans laquelle on est. Donc au niveau du capot, par exemple, donc on va se déporter sur sa demi-voie, sans empiéter sur la voie en face, évidemment. Donc c'est principalement le comportement encore du motard qui, lui, sait qu'il n'est pas vu. Si vous voulez, on a beaucoup de gens qui disent « je vous ai pas vu ». Et 9 fois sur 10, c'est vrai, si vous voulez. Alors, il y a des notions physiques On a ce qu'on appelle la tâche aveugle, c'est-à-dire que quand on regarde simplement sur le côté avec les yeux sans tourner la tête, au bout d'un moment, on a ce qu'on appelle la tâche aveugle. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est une tâche qui supprime la vision de ce que l'on a. Donc on peut ne pas voir une voiture, ça est arrivé à tout le monde. Hein, donc, et ça, c'est lié à ce phénomène-là. Donc il faut tourner la tête et avoir toujours les yeux dans la direction où l'on va.
Alors on va parler maintenant de la remontée interfile, qui consiste à passer entre deux files de voitures pour remonter un embouteillage. Alors est-ce que c'est toujours interdit ? Je sais que la loi en parle en ce moment. Et comment ça se passe ?
Alors ça, c'est une mesure qui a été gagnée par la FFMC. D'accord ? La FFMC a revendiqué...
On rappelle que la FFMC, c'est la Fédération Française des Motards en Colère.
Oui, tout à fait. Donc, nous sommes le référent formation de la FFMC, hein, la FDM. Donc c'est une des mesures qu'elle a gagnées, après un long combat, si je puis dire, plusieurs années. Et donc les pouvoirs publics ont mis en place ce qu'ils appellent des zones d'interfile. Donc aujourd'hui, il y a 29 départements qui sont concernés par cette mesure, dont le Vaucluse. Hein. Donc cette mesure, elle se fait uniquement sur les autoroutes et les routes comportant au moins deux fois deux voies, séparées par un terre-plein central, et sur lesquelles les vitesses se situent entre 70 et 130 km/h. Donc le positionnement du motard va être entre les deux files de véhicules les plus à gauche de la chaussée. Hein. Quand on a trois voies, on ne se met pas sur la file de droite. On essaye d'être au maximum visible, si je puis dire, par les conducteurs. Et en plus, s'ils font un écart, ils font un écart de l'autre côté et pas vers vous. Eh bien, lorsque la circulation est dense et qu'elle est, elle s'établit en file ininterrompue. Donc voilà, et ça sur toutes les voies. Donc, et lorsque l'espace entre les véhicules est suffisant pour passer, c'est-à-dire que si évidemment on ne peut pas passer, c'est pas la peine. Et lorsqu'une voie est en travaux ou couverte de neige ou de verglas, enfin qui est en mauvaise condition, la circulation interfile est interdite. Les zones interfile sont signalées par des panneaux. Hein, y a une moto avec zone interfile. Donc ça permet aux conducteurs, mais qui ne sont pas très habitués pour l'instant, parce que l'annonce de cette mesure est un peu compliquée pour les automobilistes. Surtout quand ils voient une moto passer et eux qui sont bloqués, en général, ils ne sont pas contents. Voilà, les règles à respecter. Le deux-roues motorisé ne doit pas forcer le passage, c'est-à-dire qu'on peut, si on n'a pas la place de passer, ce n'est pas la peine de klaxonner. Il est interdit de dépasser un autre motard. D'accord. Donc ça, c'est aussi quand on est en interfile. Et puis, lorsque le trafic se fluidifie et que les véhicules circulent à plus de 50 km/h, à ce moment-là, on rentre dans la file normale. Hein, on n'est plus en interfile. Et ensuite, dans l'interfile, le différentiel de vitesse est de 20 km/h. C'est-à-dire, si vous avez une file à l'arrêt, vous allez remonter la file à 20 km/h.
D'accord.
D'accord. Donc le différentiel, voilà, au maximum, nous on préconise 20, dans la réglementation qui est faite c'est 30, mais enfin c'est 30 au maximum. Donc nous on préfère être à 20 puisque le temps de réaction va vous permettre à 20 km/h de freiner sur 4 ou 5 mètres. Donc les distances d'arrêt sont beaucoup plus courtes. Et puis ça vous laisse le temps de regarder dans les rétros pour savoir ce que fait la personne. Éventuellement elle va changer de fil, d'accord, ou elle est au téléphone, ou elle est inattentive. Donc voilà, c'est le but du jeu.
Alors quand on a un long trajet à faire en moto, quelles sont les choses à prévoir, à préparer ? Y a-t-il des choses à faire ou à ne pas faire ?
Bah, la première chose, c'est un peu comme tout trajet, il faut d'abord préparer son trajet, c'est-à-dire déjà regarder sur une carte ce qu'on va faire, éventuellement se renseigner sur les points de repos, on va éventuellement programmer son GPS. Et également, si on va à l'étranger, il faut se renseigner sur les codes de la route étrangère, et les pratiques. Il faut savoir qu'en Suisse, par exemple, les autoroutes sont payantes. Hein. Si vous n'avez pas le pass et que vous êtes sur une autoroute, l'amende est très salée. Ensuite, il faut préparer sa moto. Déjà les pneus, hein, l'usure, les pressions, ainsi de suite. Avoir fait une révision, éventuellement. Donc, sachant que ça, c'est pour vraiment un grand trajet. On vérifie ses freins. Bon, ça, c'est pas toujours évident de vérifier le truc, mais on peut au moins vérifier s'il y a du liquide de frein au niveau du guidon, la chaîne de transmission, la propreté. Si vous voulez, c'est important que la machine soit propre, notamment au niveau des bulles, au niveau des rétros et des feux, pour être bien vu. Voilà. Ensuite, faut préparer tout un tas de choses qui peuvent être utiles pour un motard, notamment un kit crevaison. Donc, parce qu'il n'y a rien de plus embêtant que d'avoir crever en moto, surtout si la moto est grosse. Voilà. Vous pourrez voir également des sangles ou des choses comme ça, enfin des trucs pour attacher les choses. Voilà. Ensuite, il faut préparer son équipement. Donc, l'équipement de protection individuelle, les vêtements de pluie, les vêtements de rechange. Je sais pas, des bouchons d'oreilles, vérifier son airbag, s'il est chargé, pas chargé.
Alors on y viendra après dans la troisième partie. Si on est témoin d'un accident de roue motorisé, quels sont les premiers réflexes à avoir ?
Si vous voulez, c'est comme tous les accidents. Hein. La première chose quand on arrive sur un accident, c'est déjà de faire le point sur ce qui se passe. La première réflexe, c'est d'appeler les secours, hein, puisque ça, c'est la première chose à faire. Ensuite, de sécuriser les lieux en amont et en aval. Donc si on est seul, par exemple, on met son casque qui est normalement rétro-réfléchissant en amont. Et en aval, on fait signe aux gens de ralentir. Donc voilà, donc ça c'est quand on n'est pas du tout secouriste ou que si on ne sait pas, il vaut mieux ne rien faire. Une précaution quand même à prendre sur une moto, c'est qu'il faut couper le contact parce que au contraire d'une voiture, les fuites d'essence ne sont pas rares en cas d'accident. Donc c'est important de le faire. Ça m'est arrivé. Il y avait les pompiers qui étaient en train de soigner un blessé et la moto était à côté, donc si vous voulez, avec le contact mis et l'essence. Donc la première chose que j'ai faite, c'est j'ai coupé le contact. Voilà, on ne déplace pas la victime, sauf cas de force majeure. Hein, donc après, si le motard veut se relever, on le laisse faire. Hein, voilà. Si par contre il reste allongé, il ne bouge pas, il faut essayer d'ouvrir déjà sa visière si elle n'est pas ouverte, ne pas retirer le casque, essayer de voir s'il respire ou pas, mais ça, il faut avoir fait un peu de secourisme pour faire ça.
Mais surtout, ne jamais enlever le casque.
C'est toujours pareil. Si vous voulez, on va enlever dans le casque dans des circonstances très particulières. Mais ça, c'est fonction du danger que l'on voit autour de soi. Donc, si vous avez un casque qui est extrêmement endommagé, en général, à l'intérieur, c'est aussi endommagé, mais c'est extrêmement rare. Donc, normalement, c'est les pompiers qui sont entraînés à faire ça. Notamment, les antennes FFMC leur donnent des vieux casques pour qu'ils s'entraînent à retirer le casque, puisque en fonction du casque, retirer le casque ne se fait pas de la même manière, en fonction des différents types de casques.
Très bien. Alors, on va faire une deuxième petite pause musicale et puis on finira par les équipements de protection. De retour dans l'émission Sur ma route avec Monsieur Milor de l'association AFDM, l'association pour la formation des motards. Alors avant de parler des équipements obligatoires, je voudrais qu'on revienne sur le contrôle avant le départ de la pression des pneus. Qu'est-ce qu'on risque quand on a une mauvaise pression des pneus? Parce que j'ai entendu que c'était le premier défaut des mauvais motards, on va dire comme ça.
Alors donc, à part la notion de mauvais motard qui pour nous n'existe pas, c'est comme en voiture. Donc une mauvaise pression de pneu peut conduire à un éclatement, une crevaison, une usure plus grande du pneu, un échauffement, voilà. Et en moto, on va avoir un freinage incertain, c'est-à-dire que il faut savoir qu'une moto freine plus long qu'une voiture et que la surface du pneu, le contact au sol, c'est une carte de crédit. Donc si vous n'avez pas la bonne pression, ça va pas le faire. Et la mise sur l'angle va être beaucoup plus difficile. D'ailleurs, on s'aperçoit tout de suite en moto si on a crevé, parce que le guidon devient de plus en plus dur. Donc les pneus acceptent quand même une diminution de pression. Le conseil qu'on donne en règle générale, si vous voulez, c'est de mettre en place un petit automatisme qui dit que tous les 15 jours, je vais vérifier la pression de mon pneu. Donc soit j'ai un indicateur, soit je passe à la station et je fais un coup de pression de pneu. Également, quand je reprends la moto après l'hiver, la première chose à faire, c'est déjà la pression des pneus et ainsi de suite. Et ensuite, il y a aussi une notion qui nous est arrivée à un de nos animateurs. Si vous voulez, il avait une moto qui n'était pas récente et il se trouve que le pneu a dépassé sa limite d'usage, puisque sur les pneus aussi, vous avez une date de péremption. À partir de cette date-là, le pneu devient dur. Et donc, en termes de freinage, il va glisser et donc vous n'avez plus aucune endurance. Donc ça aussi, sur les vieilles motos, ou si vous avez une moto que vous utilisez très peu, sachant que le kilométrage moyen d'un motard en France, c'est 1500 km, hein, pas plus.
Par an.
Donc ce qui fait que voilà, les pneus vont être changés peut-être tous les 4 ou 5 ans. Cette chose-là va certainement se produire.
La durée de vie d'un pneu est de combien en moyenne?
Il me semble que c'est 5 ans. D'accord,
ah oui.
C'est à peu près ça.
Ah oui, bah ça c'est quelque chose que je ne savais pas du tout. Voilà. Très bien. Alors on va venir maintenant aux équipements obligatoires. Parlez-nous des équipements obligatoires. Quels sont-ils?
Eh bien aujourd'hui, dans la réglementation, c'est le casque et les gants. Donc ce sont les deux choses qui sont obligatoires. Le reste n'est pas obligatoire, il est conseillé, hein. Donc ce qui veut dire que vous pouvez rouler en short et en basket ou en tong, il n'y a pas de souci, vous n'aurez pas d'amende. Par contre, comme on a parlé des dégâts occasionnés à une chute, ça devient un petit peu compliqué. Nous, sur les protections, on fait réfléchir nos stagiaires sur justement comment est fait son équipement. Donc le blouson, est-ce qu'il est avec une dorsale intégrée ou pas? Est-ce qu'il a des coques? Est-ce qu'il est adapté à une conduite en hiver, en été, mi-saison? Donc il y a aussi ça à regarder. Sur les pantalons, c'est pareil. Il y a des pantalons aujourd'hui. Je dirais que la première matière qui fait le mieux office, c'est le cuir. Mais c'est un peu chaud en été. Donc aujourd'hui, les fabricants font des matériaux, donc le cordura ainsi de suite, et des pantalons avec des fibres intégrées en Kevlar, donc qui permettent de résister à l'abrasion. Ça ne va pas résister forcément au choc. Ça c'est pour les pantalons. Et ensuite pour les bottes, les bottes il faut qu'elles soient homologuées, mais également à la taille. Hein, c'est-à-dire que si vous avez des bottes, vous faites du 42, vous prenez des bottes de 42, ça ne va pas le faire. Vous allez avoir des problèmes en hiver et en été. Donc il faut toujours prendre une taille au-dessus, puisque l'air étant un isolant, c'est ce qui va permettre de mieux résister aux différences de température. Et ensuite on arrive sur la protection organique, si je puis dire, qui est l'airbag. Puisque l'airbag va avoir deux fonctions, mais je pense qu'on va en parler plus loin. Donc la première, ça va être d'absorber les chocs, mais également de maintenir en place les organes à l'intérieur du corps.
Venons-en aux airbags, justement. Pouvez-vous nous expliquer ce que c'est et comment ça fonctionne?
Donc un airbag, c'est quelque chose qui va se déclencher quand le motard est éjecté de sa moto. Donc il y a une cartouche de gaz qui va gonfler une structure, donc qu'on appelle un airbag. Il y a deux types d'airbag. Il y a l'airbag filaire, donc vous accrochez l'airbag, le déclenchement de la cartouche, vous l'accrochez avec un câble à la moto. Donc quand vous êtes éjecté, ben forcément, ça va percuter la cartouche. Et puis on a ce qu'on appelle les airbags pilotés aujourd'hui, qui n'ont pas d'attache avec la moto, mais qui calculent, je dirais, l'inclinaison du motard et vont déclencher l'airbag en fonction d'un certain nombre de paramètres. C'est les deux techniques aujourd'hui. Après, vous avez des airbags qui vont être intégrés intérieurs, c'est-à-dire à l'intérieur d'un blouson, et vous avez des airbags externes. Donc voilà, après c'est un choix particulier. Donc est-ce qu'il faut que je change mon équipement, mes blousons, ou est-ce qu'il vaut mieux que je prenne un airbag externe ? Voilà, c'est une question de choix.
Et en termes de finances, combien ça coûte environ un gilet airbag ?
Aujourd'hui, le prix des airbags a bien diminué. J'ai pas de chiffre exact, mais je pense que on doit être entre 400 et 600 euros, si vous voulez. Voilà, je pense que c'est ça. Il y a peut-être moins cher, mais sur un airbag aujourd'hui, je pense qu'on est dans ces eaux-là.
Ok, c'était pour avoir un ordre.
Alors, il faut également, à ce prix-là, pour les airbags pilotés, rajouter les abonnements, puisque toute la partie électronique va être mise à jour à distance par le constructeur.
D'accord. Alors, on va revenir au casque un petit peu. Quelle est sa durée de vie et pourquoi doit-on le changer régulièrement ?
Alors, un casque n'a pas de durée de vie, d'accord ? Avant, dans les années 70, on avait des casques en fibre, donc qui, eux, les fibres avec le soleil, si vous voulez, se désagrégaient. Aujourd'hui, on a des casques qui ne bougent plus en termes de structure externe. Et donc, nous, on dit qu'on va le changer quand il est endommagé, hein, s'il y en a eu un accident, mais aussi s'il sent trop mauvais.
Ah oui.
Oui, c'est un peu ça le critère.
La transpiration.
Oui, c'est-à-dire que voilà, il peut y avoir ça, puis éventuellement de dire je vais changer parce qu'aujourd'hui mon casque est trop bruyant, je vais passer sur un casque plus confortable en fonction de ce que je fais comme activité.
Alors, en cas de non-port du casque, on risque une contravention. Est-ce que c'est pareil pour les grands ? Il y a eu d'amende ? Est-ce qu'il y a retrait de permis ou suspension ?
Alors, il y a une amende. Alors, retrait de permis, je ne pense pas. Par contre, il y a immobilisation du véhicule.
C'est-à-dire si on ne porte pas les gants.
Oui, si vous ne portez pas les gants, les forces de l'ordre vont immobiliser le véhicule. Donc voilà, donc c'est la principale chose qui est faite. Mais il est possible que je ne suis pas très au fait là-dessus. Donc voilà.
Alors, venons-en au contrôle technique. On en parle depuis déjà longtemps. Quand est-ce qu'il va devenir obligatoire ? Est-ce que ce sera pour tous les deux roues motorisées, y compris les scooters, les moins de 50 cm3 ?
Alors, pour les dates et les modalités d'application, le gouvernement y réfléchit aujourd'hui. Donc le Conseil d'État a imposé une date de mettre en place le contrôle technique en France. Bon, il est très dommage que des personnes aient saisi le Conseil d'État sur cet aspect-là, parce que même l'Europe le reconnaît, si vous voulez, en France, le contrôle technique ne se justifie pas. Donc nous, la Mutuelle des Motards, qui est notre assurance, dans ces statistiques d'accidents, si vous voulez, le défaut d'une moto, c'est moins de 0,1% des accidents. Donc si vous voulez, c'est fifrelin. Et puis un motard, si vous voulez, il prend soin de sa moto.
Oui.
Donc, en plus, on ne sait pas du tout de quoi vont être faits les contrôles. Donc voilà. Alors, ce contrôle technique-là peut éventuellement se justifier pour la pollution, par exemple. Donc, pourquoi pas. Mais ce n'est pas une mesure. Alors après, il s'appliquera à tous les véhicules au-delà de 50 cm3. Ce qui est un peu dommage, parce qu'en dessous de 50 cm3, si vous voulez, ce sont des engins qui sont les plus polluants, parce qu'en général, on a
les plus trafiqués.
Plus trafiqués, plus bruyants, aussi. Ainsi de suite, d'accord. Donc voilà, donc c'est un peu ça. Après, les gens disent, ouais, c'est pour le bruit, un motard qui a mis un pot adapté, en deux coups de clé, il va le démonter, remettre le pot d'origine et aller au contrôle technique. Donc, si vous voulez, c'est pas du tout là-dessus qu'il faut se fonder. Et en plus, il y a eu des mesures de prévention sur le risque routier de roues en France, faites par les pouvoirs publics, qui sont assez efficaces, donc que l'Europe, d'ailleurs, a reconnues.
Alors, on arrive en fin d'émission. Avant de clôturer, rappelez-nous les coordonnées de votre association pour s'il y a des gens qui sont intéressés par les différents stages que vous proposez.
Oui, donc nous avons un site internet. Donc vous tapez sur n'importe quel moteur de recherche AFDM PACA. Le site, c'est paca.asso.fdm.org. Nous avons donc une adresse mail contact@paca.asso.fdm.org. Mais ça, vous le trouverez sur le site. Voilà, on a un numéro de téléphone aussi, le 07 82 99 62 33. Voilà, vous nous trouvez un peu partout. Hein, donc aujourd'hui, on est bien référencé au niveau d'Internet. Voilà, on est également référencé au niveau de la Mutuelle des Motards, puisque la Mutuelle des Motards donc, est très attentive à la formation de ses sociétaires, donc, puisque l'accidentalité de ses sociétaires qui ont fait le stage a fortement diminué. Donc voilà, donc c'est des actions. Voilà, les pouvoirs publics aussi s'aperçoivent que nos formations, sachant que effectivement nous on est très petits en termes de formation. Au niveau de la France, on va peut-être former aux alentours de 1000 motards par an, si vous voulez. Donc voilà. Mais par contre, on peut faire des actions ciblées. On va justement nous faire une journée de sensibilisation pour les permis à deux. Voilà, on fait des actions en plus qui sont des actions bénévoles, donc puisque nos stages sont payants, hein, donc sur les stages de perfectionnement, c'est payant, mais on fait d'autres actions. Voilà.
Très bien, ben, Monsieur Christian Milor, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. Je rappelle que vous êtes membre de l'Association pour la formation des motards région PACA et que nous venons de parler des dangers en deux roues motorisées. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur le site de la radio, le www.rtbfm.net. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Au revoir.
Merci beaucoup.
Vous venez d'écouter Sur ma route, une émission réalisée en partenariat avec la préfecture de Vaucluse dans le cadre du plan départemental d'action de sécurité routière.